notre Père et notre Dieu, qui es aux cieux. Venons à toi ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la promesse de bénéficier de ta présence au milieu de nous. C'est pourquoi nous voulons participer à ce culte de manière révérencieuse, parce que ta présence sanctifie la réunion, elle la rend sainte, et nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Aussi nous courbons nos têtes vers le sol d'où nous avons été tirés, te remerciant d'avoir fait cas de nous. Sois béni pour cela, pour la vie que tu nous as donnée, ainsi que la force, les moyens que tu nous as donnés, que nous puissions nous rassembler. Ceux qui n'ont pas pu venir, nous prions pour eux, sans cesse. Ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, sont à notre frère, frère Albert, que tu te souviennes de lui. Ceux qui sont dans leur lit, dans les maisons, que tu te souviennes d'eux également. Je les connais tous un à un. Il te suffit de lire dans nos cœurs, car nous les portons dans les cœurs. Ils sont là, et certaines réunions ne sont plus les mêmes réunions sans eux. Nous aimerions bien tous te louer ensemble, avec la même ferveur autrefois, mais que cette ferveur ne baisse pas, même si l'un de nous vient à manquer, alors que toi, tu combles ce qui a diminué dans nos cœurs. Que tu nous combles de tous tes bienfaits, de tes consolations, de tes encouragements. Et tu nous combles de ta grâce, parce que nos péchés sont nombreux. Nous avons besoin que tu nous pardonnes à cause de ta grande miséricorde. Pardon, Seigneur. Veuille inspirer ta parole ce soir. Dis ce que tu as à dire pour chacun d'entre nous, soit pour nous encourager, soit pour nous réprimander, soit pour nous conseiller, selon ce que tu auras décidé ce soir. Nous te remercions pour toutes choses, pour ce moment que nous te dédions, alors que nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous lirons ce soir dans Malachie 3. Pour le sujet. Verset 7. Jusqu'à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Ne vous effrayez pas, on ne va pas parler des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas le sujet ce soir. Mais nous prenons le verset 10 où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En y réfléchissant tout à l'heure à ce sujet, Dieu lui-même demande à son peuple de le mettre à l'épreuve. C'est le seul Dieu qui demande une telle chose aux hommes. Les autres dieux n'osent pas. Ils le demandent au travers de sa parole écrite pour qu'on ne dise pas que celui qui l'a dit comme cela en divagant. C'est écrit.
Amen.
Et ça traverse tous les âges, et Dieu demande à ce qu'il soit mis à l'épreuve. Vous ne verrez rien de tel dans le Coran, où Allah demanderait à ce qu'on le mette à l'épreuve. Amen. D'ailleurs, il est incapable de se défendre. Ce sont ses fidèles qui le défendent. Vous ne pourrez pas lire ce genre de choses dans les livres des bouddhistes où Bouddha demande à ce qu'on le mette à l'épreuve. Ou les Baals. Les Baals n'ont jamais demandé à ce qu'on les mette à l'épreuve. Mais Dieu le demande. Et il demande, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, dans les cieux, il y a des écluses. Vous savez ce que c'est que les écluses? Regardez, lorsque vous avez un terrain en pente, n'est-ce pas? Alors, les écluses, c'est un espace qu'on va mettre, par exemple, compris entre là et là, n'est-ce pas? Les bateaux vont venir. Le bateau doit arriver là. Alors, les écluses ont des portes. Quand le bateau va venir, en fait, ce qu'on va faire, on va rendre cette partie ici, au niveau du bateau. Comme ça, lorsqu'on va ouvrir les portes, le bateau va entrer. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la porte ici derrière. Oula. À l'arrière. Ben, ça reste comme ça. On va fermer la porte à l'arrière et on va ouvrir les portes ici. L'eau va monter jusque à ce niveau-là et le bateau peut partir. Il y en a dans les cieux. Alors, dans les cieux, les écluses des cieux ne retiennent pas, ne font pas monter ou baisser. Pour baisser, pour descendre, c'est le phénomène inverse. Maintenant, les écluses des cieux ne contiennent pas des bateaux. Amen. Les écluses des cieux contiennent des bénédictions en abondance. Nous sommes ici. Hein, nous sommes ici. Alors, si Dieu ouvre les écluses là-bas, Amen. Nous montons et Dieu nous bénit dans les lieux célestes en Jésus-Christ, sur les hauteurs. Nous sommes dans les lieux célestes en communion avec lui. C'est la position du croyant. Le croyant, ce monde n'est pas à lui. Il n'est pas ici. Le croyant est en haut. Amen. Quand il médite, le croyant est loin.
Amen.
La parole le transporte très loin. Donc, dans les cieux, Dieu siège entre les chérubins et devant d'autres créatures célestes. Il y a de la bénédiction en abondance. Les êtres célestes, les chérubins qui sont là-bas, ces bénédictions-là qu'il y a là-bas en abondance, les chérubins, les séraphins, les anges, ils n'en ont pas besoin. C'est vous et moi qui en avons besoin. Alors, si c'est retenu en haut, Dieu ne veut pas les retenir là-bas parce que là-bas, ils n'en ont pas besoin. Il veut les répandre sur nous. Alors, il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez toutes ces bénédictions. Il lui suffit alors d'ouvrir les portes. Maintenant, quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, cela ne signifie pas, tentez-moi. Je vais mettre ma main dans le feu, hein, ben il a dit que le feu viendrait et que cela ne me consumerait pas. Ça, c'est tenter Dieu. Mettre Dieu à l'épreuve, ce n'est pas ça. Hein. Dans Ésaïe 43, il dit ceci. Il dit à son père Israël, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Maintenant, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il ne s'agit pas, pour mettre Dieu à l'épreuve, d'aller vers les eaux et essayer de les traverser, si vous ne savez pas nager. Ça, c'est tenter Dieu. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. N'allez pas marcher dans le feu. Ça va? Et la flamme ne t'embrasera pas. Seulement, il peut arriver que contre votre gré, on vous fasse traverser les eaux. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Il peut arriver une circonstance des circonstances de la vie où vous passez par le feu. Le feu ne vous consume pas. Dieu est un consolateur. Il console les siens. Vous pouvez passer par des situations qui pourraient vous abattre, mais vous êtes toujours debout. On ne vous demande pas de provoquer ces situations-là. Laissez Dieu conduire les choses. Ça, c'est tenter Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait plusieurs fois dans le désert. N'est-ce pas? Par exemple, dans Exode 17. D'autres endroits, je ne les ai pas tous pris. Dans Exode 17, verset 6, voici, d'abord, ils avaient un problème. Il faudrait qu'on lise tout, le tout. Verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ne le tentez pas. Amen. Vous venez de voir en Égypte que l'Éternel est le Créateur.
Amen.
Vous venez de voir en Égypte, pendant que toute l'Égypte manquait d'eau à boire, n'est-ce pas?
Oui.
Pendant que toutes les eaux étaient devenues du sang, vous aviez de l'eau à boire. Vous avez vu cela. Donc, il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors, ne le tentez pas. Dites seulement, merci Seigneur de nous avoir permis d'arriver à cet endroit. Nous savons que tu prends soin de nous. C'est cela notre position. Le peuple était là, pressé par la soif. Dieu est capable. Si tu savais qui est celui à qui tu demandes de l'eau à boire, il t'en donnerait. Dieu en a. Mettez-vous à genoux, dites à Dieu votre situation. Dieu aime que vous lui parliez. Dieu aime, parce que si tout va très bien, vous ne lui parlerez pas. Il faut que parfois il y ait des situations telles que, à un moment donné, vous lui parliez. Il nous a créés pour que nous puissions parler entre nous, lui et nous. Amen. Que nous puissions l'adorer. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux, le peuple? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et il me lapiderait. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Va de l'avant. Il n'y a pas d'eau, va de l'avant. Voici, ne t'inquiète pas, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Ah, alors, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et le peuple saura, n'est-ce pas, ça c'est moi qui dis, que je suis l'Éternel. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Maintenant, si vous vous posez cette même question ce soir, est-ce que l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Mettez-le à l'épreuve. Comment ça? Mettre Dieu à l'épreuve, c'est faire ce que sa parole vous demande de faire. Et ce qu'il dit qu'il va suivre, eh bien, ça va suivre. Sa parole est toujours vérité. S'il dit que si vous faites ça, il y aura ceci, mettre Dieu à l'épreuve, faites ça. Faites ce qu'il vous demande de faire. Et vous verrez que ce qu'il devait suivre, va suivre. Amen. Être tenté Dieu, Dieu n'aime pas. C'est un comportement que Dieu réprouve en tout cas. Deutéronome 6, 16 nous le montre, mais nous allons lire ce que Jésus dit à Satan. Oui. Matthieu 4. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » C'est ça qu'on appelle tenter Dieu. C'est exactement ça. Et ils te porteront sur les mains, parce que c'est écrit dans le psaume 91. Donc, Jésus devait venir, n'est-ce pas, et sauter parce qu'il est fils de Dieu. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ça, c'est tenter Dieu. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. On ne le tente pas. Dans Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, savez quand vous dites, vous citez une parole, par exemple, mettez-moi à l'épreuve. Vous pouvez dire, le Saint-Esprit dit. Ça va. Le Saint-Esprit, ce n'est pas nécessairement vos pensées qui vous traversent la tête, hein, et puis vous venez, vous dites, non, l'Esprit m'a dit. Non, il faut que ça soit scripturaire. Ici, à l'Assemblée, je ne vous dis peut-être pas, le Saint-Esprit a dit, mais quand je lis la parole, dites-vous bien, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Saint-Esprit n'est pas venu me souffler quelque chose, et même quand il me souffle quelque chose, ça, je vois ça avec l'exemple de Pierre, n'est-ce pas? Pierre, c'était un authentique chrétien. C'était quelqu'un qui suivait le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait ses pensées. Parfois, il avait des pensées justes, parfois, il avait des pensées fausses. Oui? Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es... Hein? Oui, mais vous? Qu'est-ce que vous dites? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, Pierre, c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. C'est mon Père dans les cieux qui te l'a dit. Amen. Ah, c'est mon Père dans les cieux qui te l'a dit. Et bon, sur cette pierre, je bâtirai mon église. OK? Quelques jours plus tard, l'un ou l'autre jour plus tard, le Seigneur dit, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit livré entre les hommes. Jamais cela ne t'arrivera. À Dieu ne plaise. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il faut bien faire attention. Quand une pensée traverse, même si, d'ailleurs c'est surtout à ce moment-là, même si vous êtes en prière, qu'une pensée vous traverse. Éprouvez-la. Comme je dis toujours, le Saint-Esprit n'est pas bavard. Et si le Saint-Esprit était bavard, c'est qu'alors toutes mes pensées, en tout cas, ou plutôt, je dois dire l'inverse, si toutes mes pensées étaient de Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est bavard. Parce que même maintenant, en vous prêchant, il y a des pensées qui passent. Et ne me mentez pas, vous aussi, pendant que vous écoutez, en ce moment même, il y a des pensées qui passent. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons savoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Ça va? Frère Paul, qu'est-ce qui te fait dire que c'est le Saint-Esprit qui dit ça? Mais c'est écrit dans le psaume 95, versets 7 à 11. Parce que cette parole qui est écrite, hein, c'est poussée par le Saint-Esprit, que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Hein? Psaume 95. Verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, dites amen à ça, comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Ça va? Donc, ils l'ont éprouvé, c'est bien. Éprouvé, frappe le rocher et il sortira de l'eau. Ils ont frappé le rocher et ils ont sorti de, et il est sorti de l'eau. Amen. Et même quand Élie, sur le mont, comment il s'appelle encore? Sur le Carmel, merci, fiston. Sur le mont Carmel, quand Élie dit: le Dieu qui répondra par le feu, c'est le Dieu véritable. Ah, les autres étaient d'accord. Ce n'était pas une pensée d'Élie. Parce qu'au moment que Élie va maintenant offrir à son tour l'offrande, eh bien, Élie va dire: Seigneur, j'ai fait tout ça, toutes ces choses selon ta parole. Et le Saint-Esprit ne reconnaît que sa parole. Amen. Gloire à Dieu. N'endurcissez donc pas vos cœurs, verset 8, Hébreux 3, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et y virent mes œuvres. Donc, pour l'éprouver, ne le tentons pas. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Ici, dans Malachie, nous avons lu: mettez-moi à l'épreuve, apportez vos dîmes. Eh bien, vous voulez le mettre à l'épreuve sur ce point-là, apportez vos dîmes. Et vous verrez si sa parole est véritable ou pas. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et y virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis: ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Et je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Éprouvez Dieu, mettre Dieu à l'épreuve. Il y a une notion de confiance là-dedans. Confiance dans le sens que quand vous faites ça, Dieu fera exactement ce qu'il dit qu'il va faire. Qu'il est Dieu, que c'est lui qui a créé les oreilles, n'est-ce pas? Que quand nous le prions, quand nous prions, nous lui adressons la parole, il nous entend. Quand nous crions, il entend nos cris. Quand nous gémissons, il nous entend gémir. Ça va? Non, nous avons confiance que Dieu nous entend, mais il ne se contente pas d'entendre, il agit. Comment sais-tu que cette parole est véritable? Cette parole a été éprouvée. J'ai éprouvé telle parole et Dieu a agi, à exécuter. Pas seulement une fois, pas deux fois, mais à chaque fois que je l'ai fait selon l'Esprit, Dieu est intervenu. Et à chaque fois que l'Esprit intervient, vous ferez la bonne demande. Pas la demande charnelle qui satisfait la chair, mais la demande qui va dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc, dans le cas du texte de l'introduction de Malachie 3, il parle de dîmes, mais il n'y a pas que les dîmes, il y a pas mal de choses. Il parle de dîmes. Ça veut dire qu'ayez confiance en Dieu. Pouvez être accablé de factures, pouvez être accablé de besoins, mais payez quand même vos dîmes. Et vous allez voir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Quand vous ne le faites pas, je peux pas, c'est pas que j'en veux à votre argent, hein. Moi, je vous dis, quand vous ne le faites pas, c'est dans Agé que Dieu dit, c'est comme si vous étiez. Allez, on va prendre Agé. Je ne connais pas ça par cœur. Agé, chapitre 1er. Après Sophonie. Vous êtes très bien, tout va très bien, vos maisons sont nickel, vous avez fait tous les travaux qu'il fallait, tout brille chez vous et vous vous reposez, oubliant que Dieu vous a donné l'occasion que votre maison puisse briller. Vous oubliez et puis faites juste une petite prière avant de dormir et puis vous endormez. Le reste, ce n'est pas votre problème. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. En ces mots, parce qu'il est question, verset 2, le temps n'est pas venu. Le peuple dit que le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. On le fera demain, on le fera demain. Demain, vous allez encore dire, on le fera demain. C'est chaque fois demain. 2 ans, 3 ans vont passer comme ça pour la maison de l'Éternel. Alors, c'est pourquoi Dieu parle finalement. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous n'arrivez pas à faire des économies. Votre argent tombe, vous oubliez une facture, et puis paf! La voilà qui arrive. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc, Dieu dit, les choses ne vont pas parce que vous m'avez oublié. Là, c'était une maison faite de main d'homme. Mais vous et moi, nous sommes la maison de l'Éternel, maison du Saint-Esprit. Est-ce que pensons-nous à ce que Dieu soit à l'aise? Oui. On s'occupe de l'extérieur, n'est-ce pas? On se maquille, ou bien on achète la dernière chemise, le dernier cri, ou des trucs comme ça. Oui, tout ça c'est très bien, mais là, à l'intérieur, qu'en est-il? Alors, payez malgré tout vos dîmes et les bénédictions de Dieu suivront comme promis. Amen. Plein de bénédictions qui sont là-bas, qui n'attendent que vous fassiez ce que Dieu vous demande de faire. Et pas seulement les dîmes, hein. Moi je parle de toute la parole de Dieu. J'ai pris ce verset-là parce que c'est là où j'ai trouvé où il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dans Marc 12, nous lisons ceci. Verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Vous savez, c'est la classe la plus faible à l'époque, parce que les femmes ne travaillaient pas à cette époque-là. C'est pourquoi Dieu a pourvu pour les veuves dans les dîmes quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas d'allocation de veuvage. Il n'y avait pas ça. Et surtout si elle n'a pas d'enfant, ça devait être compliqué pour elle. Mais cette pauvre veuve, la Bible nous dit bien qu'elle était pauvre. Et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Ben ok, on se dit, ben c'est peut-être juste ce qu'elle avait. Ben non, Jésus dit ceci. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, elle a mis de son nécessaire. C'était son nécessaire. Je ne sais pas si elle avait des enfants, mais c'était son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et une chose dont je suis fier souvent, c'est notre immeuble ici, de l'Assemblée. J'en suis fier. Toi aussi, Dieu te bénisse. Surtout que je vois que tu vas procéder à la rénovation bientôt, partielle. Hein? Je suis fier de cet immeuble. Oh, il n'est pas aussi beau que l'immeuble de ceux d'en face. Mais nous savons comment nous avons eu cet immeuble. Vous savez, on était à la rue de Menin dans un petit caboucha d'appartement. Et puis, ça a commencé à grandir. Et Dieu avait pourvu que, moi je les ai trouvés à la rue de Menin, Dieu avait pourvu que aux étages, les gens des étages, ils n'étaient jamais embêtés par les cultes qu'on faisait. Ça ne les dérangeait pas. Or, je me souviens des réunions de prière qu'on tenait dans certaines maisons, où le voisin se fâchait, hein, où il tapait sur le plafond, ou bien il tapait d'en haut, il tapait. Bon, il était furieux de nous entendre prier. Mais là, les voisins d'en haut, ça ne les dérangeait pas. Mais seulement, c'était devenu trop petit. Alors, on a commencé à chercher. On a cherché Dieu qui connaît les choses à l'avance. Dieu savait très bien que le quartier là-bas, à la rue Barra, allait être rasé. Dieu le savait. Mais comme les gens y donnaient de leur mieux à l'assemblée, Dieu avait les yeux sur l'assemblée. Hein, je racontais ça au fiston pendant qu'on allait au baptême dimanche. Ouais. Donc, on est arrivé là, à la rue Barra. Mais nous, on ne savait pas que ce quartier était voué à être rasé. Eh bien, finalement, Dieu qui fixe, qui met. Tu sais, vous savez, il dit à Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné du ciel. Hein? Alors, le patron de chemin de fer, là, de la SNCB, pour ceux qui connaissent un peu les gens, ben, c'est quelqu'un qui est à la retraite, hein, un certain, c'était un social chrétien, un certain Étienne Scope, celui qui était patron là-bas à la SNCB. Un jour, on avait déjà fait 2 ou 3 ans là à la rue Barra. On avait tapissé, on avait mis les choses selon les normes que nous on voulait. Hein? Il appelle, moi j'étais juste moniteur de l'école dimanche, donc je n'avais rien à faire là-dedans. Les gens qui sont partis parler, il y a frère Bernard là-bas derrière, et puis il y a d'autres qui sont partis parler. Il les a appelés, il leur a dit, vous savez quoi? Maintenant, la SNCB a acheté tout ce quartier. Tout ça va être rasé. Qu'est-ce que vous y faites? Frère Paul leur explique ce que nous vous y faisions. Alors il les a regardés, il leur a dit, écoutez, le loyer que vous payez à l'ancien propriétaire, ne le payez plus, parce que l'immeuble ne lui appartient plus. L'immeuble appartient à la SNCB. Donc, ne payez plus de loyer. Nous, on ne vous demande rien. Restez là où vous êtes. Amen. Utilisez le courant comme vous voulez, l'eau comme vous voulez. Quand il faudra évacuer, on vous dira à l'avance qu'il faut partir. Nous, on croyait que ça allait nous prendre peut-être 1 mois, 2 mois. Non, non. Ça a pris 1 an, 2 ans, je crois, je ne sais plus. Ça, il faut demander aux frères là-bas derrière. Ça a pris du temps. Ce qui fait, on a fait pas mal de. Ah, frère Benoît est en train d'envier ce moment-là. Là, tu avais tous tes cheveux, frère. Hein? Amen. Yes. Yes. Donc, pas de souci de charge, rien du tout. Qui fait? Ça nous a permis de mettre de l'argent de côté. C'est pourquoi cet immeuble, je disais à un frère. Il me demandait la permission s'il fallait venir prier. Moi, je dis, frère, cet immeuble ne m'appartient pas. C'est l'immeuble de Dieu. Si c'est pour, c'est une maison de prière. Si c'est pour prier, viens prier, moi. Je n'ai pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Je n'ai pas de souci avec ça. C'est à Dieu, ce n'est pas à moi. Si vous me boutez dehors, je ne partirai pas avec l'immeuble. L'immeuble vous appartient. Enfin, ça appartient à Dieu. Il n'a pas voulu nous donner un bâtiment pompeux. Vous savez, tant qu'on peut l'adorer, on est content. Hein? On est content. Non, c'est un témoignage que Dieu, et vous verrez si Dieu, quand vous faites les choses correctement, vous verrez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors on a mis de l'argent de côté, ça nous a permis de demander un prêt hypothécaire. Aujourd'hui, ah, ben oui, fiston, aujourd'hui, l'immeuble est à nous. Enfin, l'immeuble est à Dieu. Yes. Ah. Gloire à Dieu. Ah, personne ne peut se lever disant, c'est à moi ici. Non, 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 non. C'est à Dieu. Donc, on doit faire les choses selon Dieu ici. Et non pas autrement. Si vous voulez faire des sacrifices aux idoles, allez faire ça ailleurs. Ici, c'est Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. Non, ça c'est mettre Dieu à l'épreuve. Et pourtant, quand le monsieur a dit que ce quartier va être rasé, on pouvait se poser la question, est-ce que c'était vraiment la main de Dieu qu'on vienne à la rue Bara? Mais oui, c'était la main de Dieu. Dieu, ses voies sont insondables. Ses voies sont insondables. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut venir acheter le quartier, pour raser, il va devoir nous payer. Hein. Il va nous payer, nous irons acheter ailleurs. On a de quoi acheter ailleurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous ne craignons rien. Si quelqu'un d'autre vient acheter tout le quartier, c'est que c'est peut-être pour nous le moment de déménager. Tant que ce n'est pas le moment de déménager, nous restons ici. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Dieu a été mis à l'épreuve. Et Dieu a répondu. Il ne nous a pas abandonnés. N'êtes pas fiers de votre Dieu. Je suis fier d'adorer un Dieu pareil. Donc, quand vous mettez Dieu à l'épreuve, vous faites ressortir ses attributs. C'est un défi que Dieu lance ici. Dans Jacques 5, c'est un défi. Que le Saint-Esprit, que Jacques, poussé par le Saint-Esprit, va écrire ça. Jacques 5, c'est un défi. Est-ce que Bouddha ou Allah peut faire ça? Jacques 5. Verset 14. Ça, c'est un défi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est un défi. Qui ne se lamente pas. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et il dit, la prière de la foi, on a vu la semaine passée, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il y a de la guérison en abondance. Dieu n'en a pas besoin là-bas en haut. Maintenant, quand vous faites la prière de la foi, Jésus dit ceci, c'est la chose qu'on ne doit pas oublier. Croyez que vous l'avez reçue. C'est dans Marc 11, n'est-ce pas? Dans Marc 11, 24, Jésus dit, croyez que vous l'avez reçue. Quand on dit croyez que vous l'avez reçu, cela ne veut pas dire allez vous rasseoir, hein, et vous vous croisez les bras. Vous êtes malade. Vous devez savoir que vous êtes malade. Verset 24, Marc 11, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, quand vous recevez quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Dieu vous bénisse. Alors, au moment où vous avez cru que vous avez reçu, même si ça continue à faire mal, dites merci maintenant à Dieu. Voilà. Vous êtes sûr que vous l'avez. Amen. Vous avez faim. On vous donne tout de suite 50 euros. Ah, je remercie le frère Benoît, il m'a donné 50 euros pour que je puisse manger. Mais vous avez 50 euros, vous n'avez toujours pas mangé. Hein. Mais vous lui dites merci quand même. Bien, vous dites, je dis merci à l'Assemblée parce que le frère m'a donné ça, 50 euros. Mais dites merci à Dieu. Si vous avez vraiment cru, si vous croyez vraiment que vous avez les 50 euros dans la poche, vous allez dire merci, même si quand le culte sera terminé, les magasins sont fermés, mais vous dormirez peut-être encore affamé, mais vous, avant de dormir, les 50 euros-là sont votre assurance que demain, vous allez manger. Amen. Alors, cette parole-là, c'est votre assurance que vous êtes guéri. Maintenant, cela ne veut pas dire vous arrêtez un traitement, à moins que Dieu ne vous l'ait demandé. Mais vous allez chez le médecin, mais vous êtes guéri. Vous dites à Dieu, merci de m'avoir guéri. Vous avez cette conviction-là que vous êtes guéri. C'est comme cet homme aveugle pour qui le frère a prié. Il était aveugle. Il est allé chez le coiffeur, tout le monde se moquait de lui. Toi, tu es allé prier pour que tu puisses voir. Oui, oui, j'ai prié. Et on a prié pour toi, oui. Et tu vois, il dit oui, je suis guéri, je vois. Tout le monde se moquait de lui. Je ne sais pas combien de jours il a fait en étant encore aveugle après la prière, mais lui, il croyait au fond de lui qu'il était guéri. C'est ça la clé. Ne commencez pas cette fausse humilité. J'attends la manifestation. Non, dites merci. Dites merci. Si vous continuez d'aller chez le médecin, mais croyez toujours que vous êtes guéri. Le prédicateur n'a pas le pouvoir de vous demander d'arrêter un traitement. Il ne peut pas, à moins que Dieu ne le lui demande. C'est comme ça que beaucoup commettent l'erreur, frère. J'ai prié pour toi. Ils font confiance en une certaine puissance qu'ils auraient. Ils n'ont pas de puissance. C'est Dieu qui a la puissance. Et c'est Dieu qui guérit. Il n'a pas à venir à vous dire de lui-même, de sa propre pensée, arrête le traitement, tu es guéri, j'ai prié pour toi. Non, 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 non. Ça, il faut que Dieu lui-même vous le dise. Ou alors Dieu le lui dit. Ah, maintenant, s'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, là, c'est autre chose. Il faut être sûr que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais ne doutez pas. Dites toujours merci à Dieu avec la foi que vous avez reçu votre guérison. Quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, parfois, le mettre à l'épreuve, ça doit vous coûter quelque chose. Comme ici, là, dans Malachie 3, ça vous coûte la dîme. Vous savez, dans les couples mixtes spirituellement, n'est-ce pas, où l'un est croyant, surtout quand c'est l'homme qui est l'incroyant, et que la femme veut payer sa dîme, ça pose toujours des problèmes à la maison. Oui. Mais ça coûte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il va dire, oui, mais nous avons l'électricité à payer. Nous avons telle chose à payer. Nous avons ceci à payer. Ne va pas. D'ailleurs, cet argent-là ira chez frère François. Ben, voilà, en plus. Donc, ne paye. Non, garde cet argent. C'est quoi ça, la dîme? Amen. Oh. Ça doit vous coûter quelque chose. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est montrer que vous pouvez vous priver, mais vous avez confiance que Dieu comblera. C'est ça, le mettre à l'épreuve. Dieu ordonne à une veuve. Il dit à Élie, sors de là, n'est-ce pas? J'ai ordonné à une veuve de te donner à manger. En pleine famine, cette veuve-là, elle va avoir l'argent où pour acheter à manger et nourrir le prophète de Dieu. Hein? Roi 17, puis on va s'arrêter là. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. C'est en plein. Sidon, c'est en plein chez les païens. Sidon, c'est la ville de Jézabel. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est la faim, c'est la famine. Comment est-ce que cette veuve qui ne travaille pas va-t-elle me nourrir? Mais Élie y va. Il se leva. Et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Elle devait aller ramasser son bois, elle n'avait pas de quoi acheter du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle ne discute pas et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Ben là, il y a un problème, frère. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc Dieu voit, Dieu sait, je n'ai rien de cuit. Crois-moi, hein, comme on dit, hein, Dieu sait. Ouais, hein, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Pour toi, frère, il n'y a pas assez. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point. C'est le prophète de Dieu qui vous dit ça. Et vous êtes là, vous commencez peut-être à vous demander, comment est-ce que les enfants vont manger demain? Comment est-ce que l'enfant va manger? Mais ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, Dieu est sûr de lui. Il a envoyé son serviteur. Le serviteur est sûr de son Dieu et Dieu est sûr de lui. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol, et tu auras à manger. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Le mettre à l'épreuve, parfois, c'est vous priver. Vous savez que vous êtes en présence d'un Dieu qui pourvoit, qu'il est Jéhovah Jireh, ayant la foi qu'il s'occupera du reste. Maintenant, vous priver, il faut vous priver selon sa parole. Si vous rentrez chez vous, vous ouvrez votre frigo et vous jetez tout par la fenêtre, ça, c'est tenter Dieu. Ça va?
Oui.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si quelqu'un est prêt à mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire à mettre la parole de Dieu en pratique, à faire ce que Dieu lui demande, à oublier tous ses problèmes, mais ne faire que ce que la parole de Dieu lui demande, eh bien, qu'il lui parle maintenant, qu'il lui dise, Seigneur, s'il y a eu des doutes avant, pardonne-moi d'avoir douté. Mais maintenant, je te remets tout entre tes mains. Je te mets à l'épreuve. Fais de moi ce que tu veux faire, ce que tu as voulu faire de moi. Prions au Seigneur. Père Céleste, les écluses des cieux sont pleines de bénédictions qui n'attendent qu'à descendre pour arriver à notre niveau. Et même, non seulement cela, à nous faire monter jusqu'au niveau où elles sont, car ces choses sont pour tes enfants. Et, ô Dieu, souvent nous doutons, souvent lorsque nous nous retrouvons en difficulté, devant des situations qui semblent sans issue, alors nous doutons, nous croyons que ce que nous avons, c'est ce qui résoudra notre problème. Mais le problème reste toujours entier. Parfois, il empire même. Oh Père, mais Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant y aller par la foi, croire en ta parole tout entière, du début à la fin, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oh, accomplir les commandements que tu nous as laissés. Oh Père, vraiment, accomplir tes ordonnances, oh Dieu, et bien ainsi t'être agréable. Nous ne voulons pas le faire de par nous-mêmes, mais que nous puissions le faire par le Saint-Esprit que tu as promis. Baptise chacun de tes enfants, selon qu'il est dit, lorsque nous nous sommes fait baptiser d'eau, tu as dit que nous... Celui qui nous baptisait d'eau, mais toi, tu nous baptiserais du Saint-Esprit. Pierre a dit, nous aurons le don du Saint-Esprit, que nous puissions nous repentir, ô Dieu, d'une repentance, ô Dieu, qui te soit agréable, qui te soit conforme, et qu'ainsi, ô Père Céleste, tu puisses nous combler de ta parole. Oh, que nous passions par des vallées, par des montagnes, que nous passions par des difficultés, pas, qu'importe, nous savons que ta main puissante nous tient entre tes mains. Et nous te remercions aussi pour ce lieu où nous nous rassemblons, voyant que toi qui connaissais tout à l'avance, tu as pourvu pour que nous puissions avoir ce lieu et nous t'en remercions. Oh Père, cela nous suffit vraiment pour venir te parler, pour venir te louer, pour venir nous rassembler en ton nom. Oh Père, priant pour les malades dans ce lieu, oh Père, te voyant répondre à nos prières, aussi nous voulons te demander de te souvenir de tes enfants qui ont difficile à marcher aujourd'hui, que tu les aides, comme notre sœur là-bas à l'arrière, que tu la bénisses, que tu te souviennes d'elle, de son genou, de notre sœur Astrid également, qui a difficile, que tu te souviennes d'elle. Oh Père, puisses-tu vraiment leur apporter cette parole de bénédiction, cette bénédiction qui fait que les touchant sur le genou, les touchant sur les jambes, touchant les reins, touchant tout ce dont ils ont besoin que ça soit renouvelé, nous croyons que tu es le Dieu créateur. Nous te faisons confiance, Père. Oh Dieu, nous te demandons tout simplement de te souvenir d'elle, de te souvenir de tous ceux qui ont besoin de toi, notre frère. Dans notre frère Corneille, que tu le bénisses également, Père. Oh Dieu, nous remettons tous tes enfants vraiment sous ton contrôle, sous ton regard. Toi, tu vois leurs difficultés, soit à marcher, soit oh Dieu, soit à s'asseoir, qu'importe, mais quelques difficultés que ce soit, rien ne t'est impossible. Rien n'est plus grand que toi, tu restes le grand Dieu Tout-Puissant, et nous le croyons de tout notre cœur. C'est toi qui as dit, c'est toi-même qui nous demande de te mettre à l'épreuve. Nous-mêmes, nous n'aurions pas osé, Seigneur, mais toi, tu nous demandes de le faire. Aussi, chaque parole, nous la prenons pour étant vraie, et nous voulons vraiment la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te demandons aussi, au nom de Jésus-Christ, de nous raccompagner dans nos maisons. Si tu tardes à venir, que nous puissions nous retrouver encore vendredi en ce lieu de rassemblement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.